Décryptage, Marie Cazadebé.
Le Mexique, avec ses plus de 30 000 homicides recensés en 2018, attendait le président López Obrador au tournant. Premier chef d'État de gauche de l'histoire contemporaine du pays, il promettait, lors de sa prestation de serment en décembre, un changement radical et un nouveau régime politique. Mais cette stratégie passera par une nouvelle force armée, rien de révolutionnaire sur le papier. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes engagés contre le crime organisé. Le Congrès fédéral a adopté la semaine dernière cette réforme constitutionnelle qui a créé la polémique. Dans un pays déjà hyper militarisé, cette garde nationale est-elle la solution face au fléau des narcotrafics? Comment peut-elle éviter le piège de la corruption? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Romain, le cours Grand Maison.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes cofondateur du réseau de chercheurs indépendants Noria, chercheur à l'université Paris 1, spécialiste du Mexique. Vous avez étudié plusieurs années sur le terrain les dynamiques de la violence au Mexique. Alors que sait-on de cette nouvelle garde nationale, de sa composition peut-être d'abord ?
Alors, tout d'abord, c'est un débat qui est très très récent, puisque vous l'avez dit, le vote parlementaire a été effectué la semaine dernière, après de longues semaines de négociations et de conflits. Il faut bien le rappeler, le débat a pas du tout été serein. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que donc la garde nationale, qui a été appelée de ses voeux par le président AMLO après sa prestation de serment, devrait être une nouvelle force créée donc le plus vite possible selon ses voeux, et qui, selon ce qu'on sait aujourd'hui, devrait regrouper à la fois d'anciens membres de la police fédérale, de nouveaux membres recrutés selon des chiffres qui divergent encore aujourd'hui, et des membres des forces armées mexicaines, donc de l'armée et de la marine. C'est à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui.
Des militaires donc et des policiers fédéraux, on parle de 60 000 recrues et membres déjà existants donc de ces forces armées. Une initiative qui semble aller à l'encontre de la position affichée depuis longtemps par Andrés Manuel López Obrador, qu'on va donc appeler AMLO, comme beaucoup de Mexicains. En 2012, déjà, il promettait de sortir les militaires de la rue, mais fin septembre dernier. Voilà ce qu'il annonçait 3 mois après son élection.
Tenemos un grave problema.
Nous avons un grave problème d'insécurité et de violence dans ce pays. Nous allons chercher un moyen d'y remédier sans utiliser la force. Malheureusement, les polices ministérielles, provinciales et municipales sont corrompues. C'est pourquoi on ne peut pas renvoyer les militaires à leurs casernes. Sans eux, comment réduire le nombre d'homicides et d'enlèvements ? C'est pourquoi il faut que nous nous organisions bien. Nous allons continuer d'utiliser l'armée et la marine, mais avec une approche différente, afin que les droits de l'homme soient respectés.
Romain, le cours Grand Maison, AMLO promettait donc de sortir les militaires de la rue, les renvoyer dans leurs casernes. Et puis finalement, après son élection, il dit « je ne peux pas le faire, je n'en ai pas les moyens ». Comment expliquer ce changement de position ?
Je pense qu'il y a plusieurs axes de réflexion sur le rapport de l'armée à la politique du pays. C'est quelque chose qui est très sous-étudié, je pense, au Mexique. On n'est pas vraiment capable de dire quelle est l'influence et le poids de l'armée sur ce genre de décision. Donc ça, je pense que c'est un angle un peu mort de l'analyse qu'on peut faire de la prise de décision d'AMLO. Est-ce que l'armée a été capable de lui mettre une vraie pression pour le faire pencher de ce côté-là. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, comme il le dit, et je pense que il a raison de le dire comme ça, c'est effectivement, on ne peut pas aujourd'hui probablement faire sortir l'armée des rues au Mexique du jour au lendemain. Ça, c'est probablement pas possible. En revanche, ce qu'il disait à l'époque, c'est de présenter ça comme finalement la seule solution possible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire autrement que ce qui a été fait depuis plus de 12 ans maintenant au Mexique. Ça, c'est probablement la plus grosse divergence, et ce sur quoi ces critiques se sont focalisées pendant les dernières semaines. C'est de dire, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas d'autre option possible. Énormément de ces critiques, parmi les plus virulentes, étaient d'accord pour dire qu'on ne peut pas se passer de l'armée du jour au lendemain, certes, mais du coup, il faut des options, il faut des plans à plusieurs années, et faire en sorte que l'armée, petit à petit, se retire quand même.
Pour qu'on comprenne bien pourquoi il est important d'envisager une autre solution, et pourquoi finalement c'était aussi un argument de campagne, quelle est l'image de l'armée au Mexique, et pourquoi finalement ça a été une promesse finalement, donc sur lequel AMLO semble avoir s'être assis, de renvoyer les militaires dans les casernes.
Il y a une double image, disons, au Mexique qui est un peu paradoxale. Vous avez, je pense, une image presque populaire de l'armée comme d'une institution moins corrompue que d'autres, plus intègre et surtout peut-être garante d'une image d'unité nationale. Ça, c'est l'image très populaire. Après, vous avez une image qui n'a rien à voir avec celle-ci et qui est peut-être beaucoup plus proche de la réalité que vivent certaines populations mexicaines, probablement les populations les plus marginalisées, qui, elles, en général, subissent de plein fouet l'action plus politique et plus violente de l'armée. Si vous posez la question dans ces régions-là, les gens vont vous dire que l'armée est tout aussi corrompue que les autres forces de police, qu'elle est d'autant plus violente que l'armée est entraînée pour d'autres types de tâches, voilà, pour faire la guerre, pas du tout pour des tâches de police intérieure. Et donc vous avez cette ambivalence entre certaines études d'opinion où on vous dit que l'armée a une meilleure réputation que la police. Et c'est probablement un des gros fondements du discours d'AMLO sur les forces du pays de continuer à critiquer les forces de police, à les stigmatiser comme étant les corrompus pendant que l'armée serait parfaitement propre, disons.
Il faut rappeler aussi un épisode tout récent, évidemment, de l'histoire mexicaine, c'est ce recours intensif à l'armée, c'est sous Felipe Calderón. Entre donc 2006 et 2012, il avait littéralement déclaré la guerre contre le trafic de drogue, d'où le recours à l'armée. Pour quel résultat ? Est-ce que c'est cette période aussi qui fait qu'une partie des Mexicains voit d'un très mauvais œil que leur nouveau président de gauche, qui devait incarner le changement, finalement, face encore appel aux militaires ?
Les résultats de cette politique, si on les voit sur le long terme, donc depuis 2006, donc de 2006 à 2012 avec Calderón et de 2012 à 2018 avec Enrique Peña Nieto, donc l'ancien président, sont assez catastrophiques dans la mesure où il y a depuis 2006 environ 250 000 morts au Mexique, donc c'est considérable. Il y a officiellement une petite quarantaine de milliers de disparus, littéralement des gens dont on ne sait pas où elles sont, des personnes dont on ne sait pas où elles sont dans le pays, probablement des dizaines de milliers de déplacés internes qui sont pas vraiment comptabilisés par l'administration mexicaine, et une situation de violence qui n'est absolument pas en train de se résorber. Chaque mois qui passe, presque depuis 15 mois maintenant, est le mois le plus violent de l'histoire mexicaine. Le mois de janvier qui vient de se terminer, donc le mois de février, on n'a pas encore les statistiques, mais le mois de janvier était à nouveau le mois le plus violent.
On parle toujours de record.
Voilà, c'est une litanie de chiffres tous plus inquiétants les uns que les autres. Et effectivement, je pense que une grande partie de l'électorat d'AMLO était très impatiente, au moins d'un discours de rupture et d'une pratique de rupture qu'il n'a sur ce plan-là, pas encore concrétisé.
Alors, est-ce que c'est pour ça que le projet initial du président de placer cette nouvelle garde nationale sous commandement du ministère de la Défense ne passait pas du tout ? Et est-ce que c'est pour ça qu'il a dû changer d'avis et finalement confier les clés de cette garde nationale à des civils ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que je saurais pas vous dire si c'est lui qui a changé d'avis personnellement ou si c'est surtout une opposition très forte à la fois de certains secteurs de la société civile, mais aussi de certains secteurs du Parlement mexicain, notamment du Congrès fédéral, qui sont revenus sur plusieurs des propositions et notamment sur cet angle particulièrement critiquable, qui était celui de dire on va créer effectivement une garde nationale, on va faire disparaître une force de police fédérale, donc la police fédérale, qui a été créée relativement récemment, qui est une institution qui avait notamment été promue par Felipe Calderón, le président antéprécédent. C'est surtout au terme des très longs débats au Congrès que Les députés sont parvenus à faire sortir ce mandat militaire sur la garde nationale. Je ne sais pas à quel point c'est une concession politique de la part d'AMLO, probablement un bon calcul politique aussi qui lui permet de continuer à faire avancer la réforme avec plusieurs zones d'ombre par ailleurs. En l'occurrence, ça a été salué et vu comme un très bel effort, disons, du pouvoir législatif mexicain et une avancée du parlementarisme dans le pays.
Une image contrastée donc de l'armée au Mexique, mais pas plus reluisante de la police. Maria Marquez de Favela et son mari Manuel recherchent leur fils depuis 6 ans. Il a été enlevé chez eux alors qu'il avait une vingtaine d'années par des policiers à Ciudad Juárez, c'est dans le nord du Mexique.
Je m'appelle Maria de Jesús Márquez de Favela. Je viens de Ciudad Juárez, dans l'état de Chihuahua. Mon fils a disparu. Il s'appelle Adrián Favela Márquez. Il y a 6 ans, des agents de l'État sont rentrés de force chez moi. Ils ont cassé des cadenas, des vitres et ils ont enlevé mon fils et un de ses amis qui étaient là. À ce jour, nous n'avons aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Nous ne bénéficions d'aucune aide. Les autorités ne veulent pas enquêter. Il a été prouvé qu'ils ont été enlevés par des policiers et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire avancer notre cas. Donc on s'est débrouillé tout seul pour rechercher notre fils un peu partout.
Romain Lecourt, Grand-Maison, le président Obrador le dit lui-même, on l'a entendu, la police ministérielle, provinciale et municipale sont corrompues, trop en tout cas pour qu'on leur en confie la sécurité du pays. On parle cette fois dans cette garde nationale de policiers fédéraux. Est-ce que c'est un corps moins gangréné par la corruption que les autres?
Alors, c'est probablement un corps un tout petit peu moins gangréné que ceux que vous avez cités avant, notamment parce que c'est une institution qui est quand même beaucoup plus solide et beaucoup plus indépendante, entre guillemets, que celle que vous avez citée, qui appartiennent à des échelons intermédiaires du gouvernement mexicain. C'est une institution qui est, encore une fois, assez récente, ou en tout cas le produit d'une transformation assez récente, puisque sous Felipe Calderón, elle a fait l'objet d'une recréation avec un investissement public qui a été colossal. Ça se compte, je crois, en plusieurs milliards de dollars pour créer une force qui était à l'époque prise sur le modèle du FBI américain, c'est-à-dire d'avoir une force de police à l'échelon fédéral capable d'intervenir très rapidement aux quatre coins du pays. Ce qui est sûr, c'est que AMLO en a fait un peu sa bête noire, et à la façon de chaque dernier président mexicain, on a l'impression qu'il veut à tout prix créer sa force de police. Donc Felipe Calderón avait voulu développer la police fédérale en disant que c'était son projet. Enrique Peña Nieto, qui lui avait succédé, avait dit qu'il voulait mettre fin à la police fédérale, qu'il voulait créer une gendarmerie, notamment sur le modèle français. Mmh. Et maintenant, vous avez AMLO qui arrive et qui dit « je ne veux ni l'une ni l'autre, je veux ma garde nationale ». Il y a cette espèce de foisonnement de création d'institutions. La grande question, c'est toujours de savoir ce que vous mettez dans les institutions. Est-ce qu'elles restent à l'état d'une coquille vide ou pas? En l'occurrence, la police fédérale, qui est critiquable par bien des aspects, je pense, avait une vraie solidité institutionnelle, perfectible bien sûr, mais incarnait pour une fois une institution qui fonctionnait, qui avait des codes de procédure, y compris judiciaire, qui étaient plus ou moins bien mis en place, et on aurait pu imaginer qu'il s'appuie sur cette force civile pour développer une autre force.
À quel point pensez-vous que la violence au Mexique soit le fruit de la désorganisation des services de sécurité et donc qu'une nouvelle politique, une nouvelle organisation puisse être une solution ?
Je pense que vous avez raison. Une partie de la violence est probablement liée au problème de coordination entre les forces, entre les échelons de gouvernement, des problèmes également de méfiance et de conflits très forts entre les institutions. D'une part entre les échelons municipaux et les échelons fédérés, et ensuite vis-à-vis des échelons, de l'échelon fédéral. Et la même chose est vraie à partir de l'échelon fédéral vers les forces locales. En général, ces forces sont incapables de travailler les unes avec les autres, elles ne se font pas confiance. Et ensuite, vous avez un niveau fédéral au sein duquel il y a une très forte rivalité entre le ministère de l'Intérieur, qui est la tutelle de la police fédérale, et le ministère de la Défense, qui est la tutelle des forces armées. Donc,
est-ce que sur le papier, justement, alors cette garde nationale peut-elle être plus efficace que finalement tous les échelons dont on a parlé, une police donc aux échelons plutôt locaux, complètement gangrénée par la corruption et en totale collusion avec les narcotrafiquants? Est-ce que la solution amenée par AMLO peut finalement être une solution plus efficace? Qu'est-ce que vous pensez finalement de cette nouvelle initiative, une nouvelle fois qui passe par les armes?
Alors, je pense que votre dernier mot est particulièrement important, c'est que je ne sais pas à quel point cette nouvelle initiative pourra permettre de résoudre toutes les crises mexicaines. Ça, seul le temps le dira, sachant qu'AMLO est arrivé quand même il y a moins de 3 mois, enfin il y a 3 mois aujourd'hui, au pouvoir, donc il faut aussi lui laisser un peu le temps. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça reste une réponse ancrée dans la même veine que ce qui a été fait dans les dernières 12 années, c'est-à-dire une réponse armée, le fait de dire on va recruter plus d'hommes en armes, on va déployer plus d'hommes en armes dans le pays pour faire face à une crise armée. Donc on peut imaginer que si vous ne changez rien à la recette, il y a malheureusement peu de chances pour que les choses s'améliorent très vite.
Alors l'élection donc de ce président de gauche avait soulevé un vent d'espoir, donc celui d'une nouvelle politique. Cette violence dont on parle, au-delà du chiffre toujours plus impressionnant, pourrit littéralement la vie quotidienne des Mexicains dans de nombreuses régions du pays. Témoignage de la coordinatrice du bureau de Médecins Sans Frontières à Acapulco, ce port autrefois très prisé des touristes et le théâtre d'une guerre de territoire depuis 2016.
Les gens vivent dans l'anxiété et dans la peur. La majorité de la population d'Acapulco a déjà été victime ou témoin d'affrontements, de violences sexuelles, de menaces, de déplacements forcés, de restrictions en matière de circulation ou de confinement. Tout cela provoque du stress, des états d'anxiété, de dépression chronique, des troubles de l'alimentation et du sommeil qui affectent un gros pourcentage de la population d'Acapulco.
Romain Lecourt, Grand Maison, on venait de l'évoquer, la garde nationale ne va pas s'attaquer aux origines du mal de la violence au Mexique. Comment le nouveau président López Obrador compte s'attaquer aux causes, donc là pour le coup le trafic de drogue, mais surtout la corruption, puisqu'elle gangrène même les forces de sécurité qui sont censées éviter ces violences?
Ça, c'est la grande question, c'est d'essayer de voir dans les initiatives qui sont prises en ce moment à quel moment le curseur politique va se placer effectivement sur les questions de corruption, d'impunité, de développement du secteur de la justice, qui est un vrai fléau, probablement le vrai fléau au Mexique aujourd'hui. Vous avez moins de 3% des délits qui sont rapportés et investigués au Mexique, donc c'est une goutte d'eau dans ce qui se passe dans le pays, malheureusement.
Et pourtant, sa politique doit passer par la justice, puisqu'il veut légiférer le statut de la corruption pour qu'elle soit considérée comme un délit grave. Donc finalement, ça passe encore par la justice.
Bien sûr.
Et si elle n'est pas transparente et indépendante,
c'est ça.
Bah
là, en l'occurrence, c'est presque encore pire que ça, parce que vraiment, vous avez un seuil de non-dénonciation des délits qui est absolument faramineux. Donc, si vous avez entre 96 et 98% des délits qui ne sont jamais dénoncés, si vous arrivez déjà effectivement à faire à la fois à poursuivre et à faire condamner ceux qui seront dénoncés, vous aurez progressé par rapport à ce qui était fait jusqu'à maintenant, mais le vrai problème, c'est comment vous rétablissez un niveau de confiance dans les institutions à partir du niveau local jusqu'au niveau fédéral, qui pousse les gens à se dire « je vais, par exemple, tout simplement porter plainte, c'est-à-dire je vais parler de ce qui m'est arrivé ». C'est exactement le témoignage que vous passiez tout à l'heure de cette mère qui cherche son fils. Elle a probablement pas ou hésiter à porter plainte auprès de la police, y compris de peur que la police se retourne contre elle au moment où elle porte plainte pour la disparition de son fils, elle-même causée par la police.
Un chantier, juste en quelques mots, un chantier donc lancé par le président Obrador, ça concerne les personnes disparues. On parlait tout à l'heure de 40 000 personnes disparues environ au Mexique. Il faut savoir qu'il y a 26 000 corps qui restent non identifiés dans les morgues du pays. Et donc ça, c'est l'un des chantiers titanesques du nouveau président, savoir qui repose dans ces morgues. Merci beaucoup, Romain Lecourt, Grand Maison.
Merci.
Je rappelle que vous êtes cofondateur du réseau de chercheurs indépendants Noria. Merci à toute l'équipe de décryptage, Louise Kaledek, Charles Mamère, Gérard Perrault et Claude Battista.